Radio Okapi.
Okapi. Le journal grâce à Mzati.
Au Nord Kivu, un calme précaire s'observe ce vendredi sur différentes lignes de front dans le massif Rutshuru. Aucune détonation entendue jusqu'ici sur le théâtre des affrontements hier entre les FARDC appuyés par leurs partenaires locaux et le M23 RDF. Toutefois, les habitants vivent dans la peur, rapportent des sources sur place. Plus de 500 enfants de moins de 90 jours sont enregistrés à l'état civil dans la zone de santé de Banzangungu au Congo central. Organisée par l'ONG des droits de l'homme tous autour de l'enfant, cette opération rentre dans le cadre de la sensibilisation sur l'enregistrement des naissances à l'état civil. Le coordonnateur de cette ONGDH invite tous les parents à profiter de cette opportunité pour enregistrer leurs enfants. La malaria devient de plus en plus résistante dans notre pays. Il faut donc de nouvelles orientations. Propos du coordonnateur national des journées scientifiques paludisme RDC clôturé mercredi à Lubumbashi. Le docteur Thierry Boubanga est notre invité. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Sachez tout d'abord que la Commission électorale nationale indépendante CENI organise ce vendredi l'élection sénatoriale à l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Le scrutin est en cours. 52 candidats sont à liste pour briguer les 4 sièges des sénateurs pour le compte de cette province. Dans la salle des plénières à Bounia, transformée en un bureau de vote, tous les 47 députés provinciaux que compte l'organe délibérant de l'Ituri sont présents. Par ailleurs, au Nord Kivu, les 3 jours de la campagne pour l'élection sénatoriale se clôturent ce vendredi à l'Assemblée provinciale. Au total, 34 candidats sont à liste pour les 4 sièges réservés à la province au niveau de la Chambre haute du Parlement. Quelques-uns se sont désistés, mais au moins 30 ont participé à cet exercice démocratique qui s'est déroulé sans incident, indiquent nos sources au sein de l'Assemblée provinciale. Rappelons qu'après une pause ce samedi et dimanche, les députés vont procéder au vote probablement lundi 27 mai pour jeter leur dévolu sur les 4 sénateurs du Nord Kivu. Comme dit dans les titres, au Nord Kivu, un calme précaire est observé ce vendredi sur différentes lignes de front dans les territoires des Massis et des Rutshuru, excepté, selon nos sources, certaines localités qui font face à des attaques sporadiques des groupes armés locaux contre les positions des rebelles du M23. Dans la zone autour du Burimana Minova, la situation reste très volatile, indiquent nos sources. Le récit de Bernard Denyangi.
Aucune détonation n'a été entendue toute la matinée ce vendredi sur les collines surplombant l'axe Minova-Burema-Nachacha qui ont été le théâtre d'affrontements toute la journée. Hier jeudi, entre l'armée congolaise, appuyée par ses partenaires locaux et les rebelles du M23 RDF. Les habitants, selon certaines sources, vivent toutefois la peur au ventre dans la zone, sachant que les forces belligérantes sont toujours en alerte. Par ailleurs, c'est dans la localité de Mulimbi, groupement de Tongo, dans la chefferie de Buite au territoire de Rutshuru, où il est signalé une attaque d'une courte durée, entre 5h et 6h locales. Ce vendredi, des combattants de groupes armés locaux contre une position d'une autre milice accusée d'être de connivence avec les rebelles du M23. Aucun bilan n'est disponible. Dans le même territoire de Rutshuru, tout est calme autour de la Rwindi ce vendredi, après des attaques d'artillerie de l'armée congolaise contre les positions rebelles dans la zone. Nos sources précisent que les rebelles occupent toujours la Rwindi. Cependant, cette zone, qui n'a aucune présence de population civile ou de cougardes de l'ICCN, reste fort instable. Goma, Bernard Dengagui, Radio Okapi.
Et puis, la MONUSCO, à travers sa cellule d'embargo sur les armes, a clôturé hier à Beni une formation en faveur des 25 agents du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS du territoire de Lubero et la ville de Butembo. Pendant 3 jours, les participants ont été formés au profilage, identification, marquage et traçabilité des armes et munitions. Godefroy Mumbere Anamali, l'un des participants, dit être capable maintenant d'identifier et marquer les différents types d'armes et munitions afin de lutter contre la prolifération illicite des armes légères et des petits calibres LPC. Godefroy Mumbere Anamali explique au micro d'André Kitenge.
Nous avons fait des exercices qui nous aident à comprendre comment se tenir et se comporter lorsqu'on est en face de la présentation de ces LPC. Et c'est là dans le même sens parce que vous savez, dans les objectifs du PDDRCS, dans sa stratégie nationale, il est relevé au deuxième pilier sur la restauration de l'autorité de l'État qui vise de poursuivre, de reconfirmer son pouvoir régalien dans les entités où l'administration a été mise à mal par des les groupes armés. Alors le temps que nous les sensibilisons à ces rentes, ils nous amènent parfois ces outils-là et il faut avoir un comportement responsable devant ces outils-là. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes capacités à les recevoir, à les manipuler lorsqu'on nous les amène pour les mettre hors d'état de nuire. Qu'on puisse maintenant les rassembler et les mettre à qui de droit où le PDDRCS est appelé à les amener. Parce que nous sommes en partenariat avec la MONUSCO. Nous disons vraiment, grâce à la MONUSCO, nous sommes vraiment capacités.
Plus de 500 enfants de moins de 90 jours sont enregistrés à l'état civil dans la zone de santé de Mbanzangungu au Congo central. Cette opération est faite dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'enregistrement des naissances à l'état civil couplée au remplissage des requêtes en vue de rattraper les enfants non enregistrés dans le délai lancé ce vendredi en Mbanzangungu. Cette opération est organisée par l'ONGDH Tous autour de l'enfant en collaboration avec la Division provinciale de l'Intérieur et Sécurité grâce à l'appui financier et technique de l'UNICEF. Doudou Louté, et coordonnateur de l'ONGDH Tous autour de l'enfant, appelle les parents à saisir cette opportunité pour avoir les actes de naissance de leurs enfants. Il est dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Nous avons déjà atteint 552 enfants qu'on a fait enregistrer et qui sont encore dans les délais. Quant aux enfants qui avaient raté d'être enregistrés quand ils avaient moins de 90 jours, ces enfants sont en train d'être rattrapés à travers le remplissage des requêtes. Et ces requêtes sont en train d'être signées par les parents. Et ces requêtes remontent au niveau du tribunal pour enfants. Et donc nous sommes déjà à 2030 requêtes déjà complétées. Par rapport au rattrapage, la cible attendue c'est 15 000 enfants. Et donc, nous demandons aux parents de profiter. Les jugements supplétifs et même les ordonnances, c'est beaucoup d'argent. L'acte de naissance est un document très, très capital pour la vie d'une personne humaine. Par rapport à l'enfant lui-même, l'acte de naissance lui permet d'abord de confirmer sa nationalité. Profitons de cette opportunité gratuite que l'UNICEF nous donne parce que à travers toute la province du Congo central, nous avons 31 zones de santé, mais cette opportunité n'est tombée que dans la zone de santé de Mbanzangungu.
Pendant ce temps, le service national lance une vaste campagne de distribution des bancs dans les écoles et universités de Kinshasa. Sur instruction du président Félix Tshisekedi, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik a démarré cette opération hier jeudi par une dotation de 500 bancs au complexe scolaire Mokengili de Lemba. Plusieurs autres sites sont concernés dans la capitale. Déjà, les équipes du service national sont annoncées demain samedi à l'université de Kinshasa. Rappelons que ces bancs sont fabriqués par des ex-Ekuluna de retour à Kinshasa après leur formation à Kanyamakasese dans le Grand Katanga. On écoute à ce sujet le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik au micro d'Alain Runga.
C'est un grand geste de la part du commandant suprême. Sur ses instructions, le service national a fabriqué ces bancs avec les bâtisseurs. C'est un vaste programme qui a été décidé par le président de la République. Ce programme va consister à la fabrication de plusieurs bancs pour les doter aux différentes écoles de la ville, province de Kinshasa. En tant que service national, nous sommes assignés comme mission de fabriquer 2000 bancs par mois. Les bancs sont de deux qualités. Ce que nous venons de doter ici, ce sont les bancs de trois places assises qui sont destinés aux écoles primaires et secondaires. On vient de commencer par Mokengeli. La semaine prochaine, ce sera une autre école. Mais après-demain, ce sera une opération pour la remise de bancs destiné aux instituts supérieurs et aux universités. Nous allons le faire à l'université de Kinshasa. Là, ce sont le banc semi-métallique de 5 places assises. Et l'objectif du service national dans ce vaste programme, nous soyons en mesure de donner de la place assise aux élèves et aux étudiants chaque année, si le moyen suivent, à 100 000 élèves et étudiants par année dans la ville-province de Kinshasa.
Rendons-nous au Kassai Oriental pour parler de l'ouverture hier du colloque international organisé par l'université officielle de Mbujimayi, UOM. C'est sous le thème Kambai Bwashia et les questions sociales congolaises, examen critique et relecture contextuelle. Pendant 3 jours, quelques hommes et femmes du monde entier scientifique, de la RDC et de l'étranger font la relecture des ouvrages publiés respectivement par le professeur Kambai Bwashia. D'après le professeur Abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi, l'objectif est de pousser les jeunes universitaires à vivre avec la plume à la main. Le recteur de l'université officielle de Mbujimayi est au micro d'Esther Dalafina.
On a voulu que l'université congolaise, à travers l'analyse de l'œuvre, de la pensée d'un grand universitaire, puisse penser le monde, voir comment lui il pense le monde et comment nous, nous pouvons le faire. Et je crois qu'hier, on a tous compris sa sociologie de la banalité. Donc la banalité comme lieu majeur de la pensée universitaire. Notre but a été celui-là, nous mettre à l'école d'une personne qui pense la société, qui pense les questions de la société en tant qu'universitaire, pour que nous aussi, nous ne soyons pas une université distraite, qu'on soit une université attentive à la banalité quotidienne et qui assume ses responsabilités. Nos étudiants suivent en ligne la grande leçon, et je l'ai résumée hier en parlant de Monseigneur Tshibango et de Kambaya Boatia, c'est vivre la plume à la main. Un universitaire, il vit la plume à la main pour s'étonner devant le monde, devant la banalité, pour interroger la banalité, pour scruter la banalité et indiquer au monde le chemin à suivre en suivant lui-même ce chemin-là.
Cette autre nouvelle à Bunyanituri, les matières fécales de la prison centrale passent devant plusieurs habitations voisines. De nombreuses familles qui s'en plaignent se disent exposées aux maladies. Elles demandent aux autorités de trouver une solution à ces problèmes qui persistent depuis environ 2 mois. Le directeur de la prison indique que les démarches sont en cours auprès des partenaires dans la MONUSCO pour vider les latrines qui sont pleines. Reportage à Bunia de Lydia Tchombe.
Des matières fécales accompagnées d'eau usée des toilettes coulent à longueur de la journée dans les caniveaux devant des parcelles des habitants installées près de la prison centrale de Bunia située au quartier Bakoko. Elles se déversent ensuite dans la rivière Ngezi. Elles dégagent une odeur nauséabonde qui oblige ses voisins à maintenir les portes de leur maison fermées. D'autres préfèrent fuir leur domicile pour passer la journée ailleurs. Certains bailleurs ont perdu leurs locataires qui ne supportent pas ces odeurs permanentes. Ces rivières se disent exposés au quotidien aux maladies et plaident pour une intervention urgente des autorités. Ce sont les citoyens qui vivent ici. Il faut qu'ils prennent la responsabilité en tant qu'une institution étatique afin que nous soyons à l'aise. Le matin, c'est lors des déjeuners que cette matière fécale coule et là, on n'a même plus l'appétit. S'ils peuvent trouver une solution, ça va beaucoup nous aider. Le directeur de la prison dit avoir introduit une requête auprès de la MONUSCO pour procéder à l'affidage des toilettes qui sont déjà rempli. Camille Nzunzi.
Nous avons introduit par rapport à cet appui-là. La réponse était venue que le véhicule était en panne. Je vais encore demander à ce qu'on puisse venir nous aider.
Cette prison héberge environ 2300 détenus et leur nombre ne cesse d'augmenter.
Bunia, Lydia Tchombe, Radio Kapi.
Les sociétés coopératives demandent au gouvernement d'appuyer financièrement leurs projets afin de booster l'économie rurale de la RDC. Cette demande est contenue dans les recommandations formulées par les participants à l'atelier sur l'élaboration de la fiche d'enregistrement et d'immatriculation des coopératives. Charles Lebagouma, expert au ministère du Développement Rural, l'a dit jeudi en marge de la clôture de ses assises des 3 jours tenues ici à Kinshasa. Charles Lebagouma est au micro de Paul Matendo.
Les participants ont besoin que le gouvernement puisse appuyer, n'est-ce pas, toutes ces organisations coopératives. Parce qu'il y a des subventions, il y a des dons, des aides qui peuvent venir du gouvernement, qui peuvent aussi booster, n'est-ce pas, le développement à partir de la base. Il y a beaucoup de coopératives aujourd'hui, peut-être parce qu'elles n'étaient pas structurées, elles n'étaient pas organisées. C'était difficile de leur venir en aide. Mais nous pouvons demander au gouvernement de jeter un coup d'œil aussi sur ces coopératives. Une fois ils sont soutenus à partir du gouvernement, je pense qu'ils pourront être une source, n'est-ce pas, une source qui peut booster l'économie dans notre pays. Que ce soit des pêcheurs, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des miniers, que ce soit des cordonniers, il y a de l'argent, il y a l'économie qui tourne. C'est-à-dire les gens achètent, leurs familles sont en bon état aussi parce que il y a l'argent qui tourne en fait. Ils ont besoin des appuis parce que parfois ils sont aussi limités sur le plan financier compte tenu de moyens.
Province du Maniema, en marge de la Journée internationale de la biodiversité le 22 mai, l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires ICAV Maniema sensibilise la communauté sur la protection de la biodiversité. Professeur Deogracias Mundenga, directeur de cette institution, explique ici au micro de Florence Kizalonga.
Vous savez très bien que chaque 22 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la biodiversité. Et c'est dans ce cadre-là que l'ICAV Maniema a organisé une journée de conférences, échanges autour du thème le Maniema pour la biodiversité. Et ceci cadré avec le thème général qui est « Faites partie du plan de la protection de la biodiversité. Nous avons visé informer, sensibiliser, conscientiser, vulgariser auprès des populations tout ce qu'il y a comme connaissances, informations, réalisations autour de la biodiversité. Et surtout en s'appuyant sur le lien qui doit exister entre l'homme et la nature, l'homme et la biodiversité, qui doivent être en parfaite union. Nous visons en fin de compte que la population soit en mesure de protéger la biodiversité, parce que la vie de la population en dépend. L'ICEAV s'intéresse à la biodiversité parce que il y a coïncidence entre la vocation de l'ICEAV et la problématique de la biodiversité.
Actualité internationale.
Un court-circuit électrique dans une usine de sucre a déclenché jeudi matin une explosion tuant 11 travailleurs, dont 3 étrangers, nous sommes en Tanzanie, indique la police. Les 3 étrangers étaient originaires du Kenya voisin, du Brésil et de l'Inde. 2 autres travailleurs ont été blessés dans l'explosion et ont été soignés à l'hôpital de Morogoro. Mtibwa est l'une des principales usines sucrières du pays, produisant au moins 70 000 tonnes de sucre par an selon les données du gouvernement tanzanien.
L'invité.
Clôture mercredi 22 mai à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi des journées scientifiques couplées aux journées scientifiques paludisme de la RDC. D'après le coordonnateur national des journées scientifiques paludisme en RDC, la malaria devient de plus en plus résistante dans notre pays, d'où il faut des nouvelles orientations. Le docteur Thierry Bobanga est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Professeur Thierry Bobanga, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état des lieux du paludisme dans la province du Haut-Katanga?
L'état des lieux du paludisme dans le Haut-Katanga, c'est la situation qu'on retrouve presque partout en RDC. La maladie, à un moment, commençait à être contrôlée, mais depuis un temps, on a des problèmes, pas parce que les gens ne s'y mettent pas. Les vecteurs de la maladie Anopheles ont commencé à acquérir la résistance vis-à-vis des insecticides qu'on utilise, ce qui voudrait dire que les outils utilisés devenaient moins efficaces. Deuxième problème, ce sont les médicaments. Il y a déjà 20 ans, on avait changé des médicaments pour soigner et on se rend compte que depuis un temps, les médicaments posent des problèmes. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Et aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont annoncés. Déjà, la RDC cette année va aussi entrer en ligne parmi les pays qui vont vacciner un groupe d'enfants contre le paludisme. Il y a des problèmes de résistance, parce que beaucoup d'études d'ailleurs sont menées au Katanga par rapport à la résistance aux insecticides. Des travaux, même certains sont en cours, d'autres vont venir d'ici quelques semaines pour réévaluer les médicaments au Katanga.
Mais la résistance, d'après vous, serait due à quoi?
La résistance est un phénomène naturel. C'est-à-dire que les organismes vivants exposés à des contraintes, ils s'adaptent. Même les humains, on s'adapte à certaines situations. Ainsi, les moustiques s'adaptent, les parasites s'adaptent. C'est un combat. Il faut aller vite pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ces questions.
À un moment donné, un recours a été fait systématiquement à la quinine. Et alors qu'il est-ce que la quinine tient encore?
La quinine tient. Elle tient même très bien. Et on dit même que la quinine reste l'arme qu'on va peut-être sortir, puisque toutes les autres armes sont en train de montrer leur faiblesse. Et ce qui était prévu et prévisible. Donc, la quinine, elle est là. On l'utilise d'ailleurs dans les formes graves. Et dans les formes moins graves, nous recourons à d'autres médicaments.
Mais dans l'entretemps, sur le marché, il y a de faux médicaments. Est-ce que ça ne participe pas à la non-éradication ou à la non-guérison rapide de ceux qui souffrent déjà du paludisme?
La mauvaise qualité des médicaments n'est pas nécessairement liée directement au programme de lutte contre le paludisme. Il y a des structures hors programme qui sont chargées de contrôler les médicaments. C'est vrai, les faux médicaments, des mauvais médicaments vont aggraver la situation, vont même accélérer le phénomène de résistance parce que la quantité des molécules est faible.
Entre-temps, sur le terrain, des recherches sont menées en rapport avec cette question de la malaria. Où en êtes-vous à ce jour?
Il y a des recherches sur les médicaments, il y a des nouveaux médicaments qui sont annoncés, certains vont déjà entrer en ligne. Il y a la recherche sur les moustiques, ça nous permet de voir comment les moustiques se comportent, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a la recherche qui sont menées pour essayer de récupérer des cas qu'on ne sait pas attraper. Par exemple, aujourd'hui, il y a une nouvelle approche. qu'on veut mettre en œuvre avec l'équipe de SANRU. Dans les écoles, on veut voir quand les enfants font la fièvre, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va mettre des tests pour détecter la maladie et soigner. Ça va permettre de récupérer les cas qu'on ignorait et rapidement de soigner. Parce que la grande question dans la malaria, il faut soigner rapidement. Il ne faut pas que lorsque la maladie s'installe et qu'elle devienne grave. Il faut arrêter rapidement. Lorsqu'on arrête la maladie rapidement, on permet à ce que la forme ne s'aggrave pas. Mais deuxièmement, on arrête aussi la transmission de la maladie. On élimine rapidement les plasmodiums qui sont dans le corps de l'individu.
Enfin, professeur, que dire à la population en rapport avec cette question dont les conséquences sont incalculables dans le famille?
Bon, nous disons à la population de manière simple, la meilleure approche pour lutter contre le mal, c'est la prévention. Il faut que la population respecte les conseils qui leur sont donnés par rapport à la prévention. Utilisation des moustiquaires, par exemple, c'est donné gratuitement. Deuxième chose, on dit, il faut éviter que les eaux stagnent tout autour de nos maisons. Et lorsque vous avez une personne, particulièrement un enfant, qui fait de la fièvre, amenez l'enfant rapidement dans une structure de soins. Parce que le médicament, on le répète, est gratuit.
Le médicament contre la malaria est gratuit?
Le médicament contre la malaria est gratuit. Dans toutes les structures publiques du pays.
Depuis combien de temps?
Plus de 5 ans. Les médicaments est fourni. Peut-être qu'il arrive de temps en temps qu'on peut avoir pendant des ruptures. Les compléments antipaludiques sont donnés gratuitement.
Thierry Bobanga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Jean.
Notre invité, le docteur Thierry Bobanga, s'entretenait avec Jean Gandou depuis la ville de Lubumbashi. Est-ce la fin de ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et supervisé par Martin Sebujangwe? Alain Goy a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était la présentation. Merci pour votre attention.